tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Radio Las Casas.
La radio
du cœur.
La ciudad.
Del corazón.
Du collège.
Con canción.
De la casa.
La cultura.
Las culturas.
Vivre ici.
Vivre là-bas.
Que ri da me lisa.
Buenos días, Fatima.
Salut, Younes.
¿Qué estás haciendo?
J'essaye d'écrire à mon correspondant qui est à l'autre bout du monde.
Ah, estupendo. Mais en fait, qui sont nos correspondants?
Des Mexicains?
Des Espagnols?
Des Chinois?
Des Canadiens?
Je vous donne un indice. Ils parlent espagnol, mais ils ne sont pas espagnols.
Ah, son latinos.
Deuxième indice. Ils vivent dans la plus grande île des Caraïbes.
Ah, c'est des Cubains.
Je me demande bien comment ils vivent là-bas.
Vas-y, demande-leur s'il fait 10 degrés aussi là-bas.
Je me demande si les filles portent des shorts en ce moment.
Tu crois qu'il est quelle heure là-bas?
Hé, hey, doucement là. J'arrive pas à tout écrire. Et en plus, j'ai fait plein d'erreurs d'orthographe.
C'est pas grave. À la radio, l'orthographe, ça ne se voit pas.
Allez, vamos. Nous, les classes de 3e C et D, nous vous embarquons dans un voyage radiophonique pour vous faire découvrir comment nous vivons ici à Montpellier. En route!
Vamos!
Adelante!
C'est parti!
7h15, je me lève. J'ai parlé en chlach avec ma mère et en catalan avec mes soeurs. Mes parents viennent de Tenerife au Maroc. Et là-bas, on parle chlach. C'est le berbère. 8h, je sors de chez moi pour aller à l'école. J'ai rencontré Mohamed Ganem. On a parlé en catalan sur le chemin. Je parle catalan car j'ai vécu en Espagne, à Barcelone.
Bonjour, sortez vos carnets, merci.
Bonjour.
Merci. Merci.
De rien.
La capuche, s'il vous plaît. Merci.
8h30, les cours commencent.
Vamos.
On parle en français, sauf quand je suis en cours d'anglais ou espagnol.
Cuidado con el ruido de las sillas, por favor.
J'habite en France depuis l'année dernière. On est venu s'installer avec ma famille. 10h30, c'est la récré. Je parle français avec mes copains, sauf Mohamed. Des fois, je parle en riff avec Younes. J'ai appris le riff avec les copains. Le soir, je rentre chez moi. Je parle chlo avec mes parents. Et en catalan ou français avec mes soeurs et mon frère aussi. À table, on parle tous chlo. Quand je rêve des fois en catalan et des fois en chlo. C'est les langues dans lesquelles j'ai toujours réfléchi.
Con mi mejor amigo tenemos un trayecto parecido. Lo conocía de vista en Barcelona. Vivía a 3 kilómetros de mi casa. 6 meses después que yo llegara en Francia, llegó él. Él tampoco sabía hablar francés, ni conocía la ciudad. El hecho de vivir la misma situación, se acercamos uno al otro. Nací en Barcelona. Tengo nacionalidad española. Mis padres son marroquinos y ahora vivimos en Francia. En Marruecos se hablan 3 idiomas. El árabe, que es la lengua nacional, el rif y el chlech, que son dialectos. El árabe lo aprendí en mi barrio en Francia. El barrio donde vivo en Francia son todos árabes. Cuando llegué a Francia no sabía comunicar en francés. Por eso he aprendido el árabe para comunicar con la gente de mi barrio. ¿Y ustedes saben hablar diferentes idiomas también?
Nos vamos en la plaza principal, que es la más central de nuestra ciudad.
Madame Churlan, de la oficina de turismo, es nuestra guía turística.
Estación Comédie.
Alors tout autour de nous, on a une place qui n'a pas vraiment l'architecture méditerranéenne.
Il y a des tramways, l'opéra.
Il y a beaucoup de magasins aussi.
Il y a des gens sur les terrasses.
C'est une des plus grandes places d'Europe et une des plus animées aussi, puisqu'ici on a plus de 60 000 personnes qui se croisent tous les jours sur cette place.
Et
place
des monuments.
Des monuments, exactement. C'est l'architecture du baron Haussmann avec ses balcons.
qui créent des lignes de fuite, avec sur les toitures des petits dômes qui viennent rythmer les façades. Donc une architecture qui est plus dans la tradition parisienne que dans la tradition locale. Et c'était vraiment la volonté au 19e siècle, lorsqu'on va réellement aménager cette place, que de faire démonstration de la richesse de la bourgeoisie montpelliéraine, puisque tout autour de Montpellier, on a un très grand vignoble, le vignoble du Languedoc, et que donc ces bourgeois qui se sont enrichis par le commerce du vin vont faire construire tout autour de la place ce qu'on appelle des immeubles de rapport, c'est-à-dire des immeubles non pas pour habiter, mais des immeubles que ces bourgeois vont louer pour retirer quelques bénéfices donc de ces investissements. Et donc nous, on s'est donné rendez-vous au pied de cette très belle statue fontaine, la statue fontaine des Trois Grâces. Ce sont trois muses, elles s'appellent Thalie, Aglaé et Euphrosyne. Ces trois muses qui ornent la fontaine, elles faisaient partie d'un grand projet hydraulique du XVIIIe siècle, la fontaine des Trois Grâces, qui a toujours été sur la place de la Comédie. En revanche, celle que l'on voit là, c'est une copie, puisque l'original de cette statue, il est à l'intérieur de l'Opéra Comédie. C'est vraiment un opéra à l'italienne avec beaucoup de dorures dans le décor. Les loges sont toutes traitées à l'or. Et puis on a ces fauteuils de velours rouge avec un rideau de scène qui a été restauré dernièrement et qui lui aussi est un gros rideau de velours rouge. Donc on a vraiment cette ambiance des théâtres à l'italienne. C'est très très beau à l'intérieur. Voilà.
J'ai toujours vécu à Montpellier. Mes parents sont nés au Maroc et ma religion est l'islam. Je suis allé dans plusieurs écoles arabes à Montpellier pour apprendre l'islam. Je change d'école chaque année pour apprendre plus vite, pour avoir des avis différents sur certains points de la religion, car les interprétations ne sont pas toujours les mêmes.
J'ai commencé l'école arabe à 9 ans. Aujourd'hui, j'y suis encore, j'ai 14 ans.
Dans chaque école arabe, il y a trois matières principales. Le cours de religion, le cours de langue et le cours d'apprentissage du Coran. Aujourd'hui, je connais l'arabe littéraire, donc j'ai pu lire le Coran tout seul.
Grâce à cette école, j'ai appris de nombreuses choses sur l'islam. Au début, je ne me sentais pas tellement à ma place. Je ne connaissais presque personne. Ça changeait de ce que j'apprenais à l'école. Maintenant, quand je vais là-bas, je suis bien. Je suis apaisée, c'est peut-être parce qu'il n'y a que des filles. Ce n'est pas mixte.
Quand je suis énervée, j'y vais là-bas et ça me calme direct. Je respecte beaucoup ce que j'apprends. À l'ASCAS, ils disent « il est sage, mais il peut faire mieux ». À l'école arabe, ils disent que je suis l'élève le plus sage.
Dès que je pose un pied là-bas, vu que c'est un lieu religieux, je suis plus attentive. Et je suis plus à l'écoute des enseignantes. J'aime les valeurs qu'elles nous transmettent. J'essaie de toutes les appliquer du mieux que je peux. Mais c'est parfois difficile.
Pour moi, la religion, elle est plus importante que tout. La religion, ça me permet de faire des choses bien.
Je me dis que l'important, c'est de faire de son mieux pour s'améliorer.
Nous allons rentrer dans le bureau de Monsieur Lenné.
Bonjour.
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 J'ai été nommé principal ici à la rentrée, donc la ville de Montpellier, c'est quelque chose de nouveau pour moi.
Bienvenue.
Je suis content de travailler avec vous.
Nous aussi, on est contents.
Quel est votre objectif en tant que principal de l'ASCAS?
L'objectif numéro un, c'est de vous faire réussir. Et aussi de vous insérer socialement dans la vie. Parce que les résultats scolaires, en fait, il y a plusieurs facteurs, hein, plusieurs éléments qui déterminent la réussite d'un enfant. Tu l'as dit toi-même, c'est la qualité même du professeur.
Il y en a, ils sont bien, il y en a, ils sont mal.
La majorité des profs, ils prennent beaucoup de temps pour nous expliquer. C'est pour ça qu'on est en retard.
C'est aussi les élèves.
C'est aussi lié à l'éducation de l'enfant. J'ai connu une famille où ils savaient ni lire ni écrire, mais néanmoins, leurs enfants ont réussi parce qu'ils s'en occupaient.
Pensez-vous que la mixité est une influence sur les résultats scolaires?
Et qu'est-ce que c'est pour vous la mixité alors?
Comme ici, il n'y a que des Arabes, donc...
Il n'y a presque que des Arabes, d'accord. 10% de Marocains. Bon, alors la mixité, c'est pas que ça. Il ne faut pas réduire la mixité à l'origine ethnique. Mais il faut, disons, la mixité, c'est l'origine sociale. C'est pas pareil.
Ça rapporte parce que les parents, ils sont immigrés, donc il y en a qui n'ont pas fait d'études et ils n'ont pas de travail.
On est d'accord que souvent, quand tu n'as pas fait d'études, tu n'es pas dans une catégorie sociale favorisée parce que tu n'as pas le boulot qu'il faudrait. Quoi.
Cette année, c'est l'année de l'orientation. L'année où on choisit ce que l'on souhaite faire plus tard. Moi, je me pose encore des questions. Je ne sais pas quel métier je voudrais faire. Ce que je sais, c'est que dans 3 ans, je vais avoir mon bac. Il faut dire que mes 2 grands frères et mes 3 grandes sœurs ont tous eu leur bac. Du coup, c'est une étape un peu obligatoire pour moi. Pour mes parents, les études sont très importantes, en particulier pour ma mère, qui n'a pas étudié. À son époque, dans le sud du Maroc, les filles n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, ma mère ne peut pas nous aider pour nos devoirs. Du coup, avec mes frères, on a bien esquivé.
Je veux faire un bac S au lycée Jean-Mermoz, car il y a ma filière là-bas. Ma filière, c'est STD2A, car plus tard, je veux devenir ingénieur en technologie. Je parle de mon parcours scolaire, car mes parents n'ont pas eu la chance de continuer leurs études. Mes frères et sœurs commencent à me mettre la pression, car ils ont tous eu le bac. Du coup, je me sens obligé de l'avoir. Ils me disent « Hé, c'est toi qui vas fermer la porte, Bouladès, car c'est moi le plus petit. » Toutes ces phrases me restent dans la tête. À chaque contrôle, je me remémore ces phrases et je me mets la pression. Et plus tard, je vais avoir une belle femme, des enfants, une belle maison et que du bien pour moi. Je sais que tout cela ne va pas se faire en un claquement de doigts.
Je suis né en France, mais je suis d'origine marocaine. Mon père est patron d'une boucherie. J'ai travaillé dans sa boucherie et aussi dans une autre boucherie pour un stage. Il m'a tout appris. Mais aujourd'hui, je vais voler de mes propres ailes, faire un métier qui ne dépend pas de ma famille. Je voudrais être assureur. J'aime convaincre les gens. Généralement, j'y arrive facilement. J'ai aussi choisi ce métier car il rapporte de l'argent. Beaucoup plus que ce que gagne un Français en moyenne. Mes parents ont toujours tout fait pour que je ne manque de rien. C'est donnant-donnant. Pour les remercier, je dois réussir ma vie, être indépendant et rapporter de l'argent pour ma future famille. Et limite pour eux aussi. Ma motivation pour les études, c'est donc pas tellement d'apprendre, mais plutôt de pouvoir être indépendant financièrement, de pouvoir donner plus que demander.
D'un côté, les études, c'est très important pour moi. Je vais me forcer pour avoir mon bac. Et après, je ne sais pas encore si je continuerai.
Même si ma famille me met la pression, je sais que grâce à eux, j'ai plus de chances d'avoir une bonne situation.
Aux alentours de la Skaz, il y a des quartiers en fait. Et là-bas, il y a beaucoup d'Arabes.
Il y a un territoire et il y a un collège au milieu. D'accord ? Donc vous venez majoritairement du Petit Bar et des Cévennes. Oui. Avant, si vous voulez, quand il y avait beaucoup plus d'élèves, tous les enfants de ces quartiers-là venaient ici. Maintenant, ils ne viennent plus. C'est-à-dire qu'on n'a que la moitié de notre secteur qui vient ici. Et donc, il y a eu une désertion, je dirais, des populations, des classes favorisées. Hein ? La Skaz, à l'origine, dans les années, il y a 15-20 ans, c'était un des collèges les plus recherchés de Montpellier. Voilà. Et voyez-vous, donc il y a eu des événements qui ont fait que eh bien, toutes les populations favorisées sont parties.
Je sais pas, en 2006, il y avait beaucoup d'élèves qui faisaient n'importe quoi. Il y avait des gens qui se battaient.
Aux événements qu'il y a eu dans les cités. Oui, ça peut être une explication, effectivement. Et donc l'objectif des années qui vont venir, c'est de reconquérir l'autre moitié du cercle.
On est arrivé en France le 31 juillet 2011, mon père, ma mère, mon frère et moi en avion. Quand je suis arrivée dans mon nouveau quartier, je l'ai trouvé pas très joli. Il y a des bâtiments entre 10 et 20 étages, les routes sont abîmées et il y a du goudron et des cailloux un peu partout. En Espagne, mon père vendait des habits. Il a commencé à baisser les prix, mais malgré ça, les gens n'achetaient plus. C'était la crise. J'habitais dans une résidence propre avec des fleurs. Les bâtiments n'étaient pas très hauts. Il n'y avait que 6 étages. En arrivant dans mon nouveau quartier, je n'ai pas vu de mixité. Il n'y avait pas de blondes aux yeux bleus, seulement des gens d'origine marocaine. Ça m'a choqué énormément, car à Sivi, les quartiers arabes n'étaient pas qu'aux Arabes. Il y avait des Espagnols comme des Arabes. Le jour où mon père m'a inscrit à ma nouvelle école en France, c'était la même chose. On est plus de 90% d'élèves d'origine maghrébine. À Séville, on était 3 élèves d'origine marocaine sur 300. J'étais calme, j'étudiais beaucoup. Je suis arrivée en France en CM2, j'avais 10 ans. J'étais toujours aussi calme. Et petit à petit, j'ai changé. Car les élèves du collège sont turbulents. Je suis devenue comme eux. Aussi, quand je suis arrivée en France, j'ai trouvé les gens plus froids et plus stricts. Mais je me suis rendu compte que quand on casse la barrière, les Français sont aussi sympas que les Espagnols. Maintenant, je me suis habituée au collège, à la langue française, au quartier, aux copines. Si on me demandait de choisir, je resterais en France. Désormais, je m'entends très bien avec chaque personne que je rencontre, mais je me demande toujours ce qui se serait passé si j'étais restée à Séville.
Bonjour et bienvenue à Météo Alaskas. Bonjour Samira, bonjour les auditeurs, bonjour chers correspondants.
Buenos dias, Imen, y buenos dias a todos.
Hoy estamos el 11 de enero del 2016. El cielo está nublado y lluvioso, pero algunas aclaraciones están previstas para la tarde.
As-tu remarqué que selon les saisons, les couleurs que l'on porte changent?
En general, en invierno, la gente de aquí se viste de colores oscuros, como el negro, el gris o el marrón.
Yo espero que haga más calor para ponerme ropas amarillas, rojas y blancas.
Nous allons maintenant accueillir Ibtissem qui va entre autres nous parler de température.
Hoy no salgan sin sus bufandas y sus gorros, ya que hará frío. Las temperaturas no pasarán los 6 grados. El sol se ha levantado a las 8 y 17 y la apuesta será a las 5 y 27.
Donc, quand nous sortirons du collège, il fera déjà presque nuit?
Eh oui, Samira, c'est comme ça ici en hiver. Mais heureusement, en été, le jour sera beaucoup plus long. C'est la fin de notre point météo. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Las Cases.
Adios!
Hasta luego!
Cabinet médical doctoral, bonjour.
Oui, bonjour. En fait, nous avons rendez-vous à 13h30 avec le docteur Hall et il n'est toujours pas arrivé.
Allez-t-on vite à domicile, elle risque de tarder. Veuillez patienter, merci.
Merci, au revoir.
Au revoir. Bonne journée, monsieur.
Bonjour, allez-y, je vous en prie.
Pourriez-vous nous dire, pour chaque saison, quelles sont les maladies les plus fréquentes?
Ben là, on va commencer. Là, on est en pleine saison des rhinopharyngites, donc là, en gros, le rhume. Le rhume, on a pas mal de gastro, des nausées et de la diarrhée. La grippe, on l'attend encore. Elle n'est pas encore à l'arrivée. Mais en gros, grosso modo, les infections qu'on voit en ce moment, là, c'est les rhumes et la gastro. Alors, ce qui est important, en fait, c'est déjà, première base, une bonne hygiène de vie. Sommeil, une bonne alimentation, riche en légumes, riche en fruits, le lavage de mains.
Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que la carte vitale et à quoi sert-elle?
Ben, la carte vitale, elle sert justement à se faire rembourser les consultations. C'est-à-dire que nous, on passe la carte vitale et la sécurité, du coup, reçoit le message comme quoi il y a eu une consultation de réaliser. Et donc, elle rembourse 70% de la consultation. Voilà, sur 23 euros. Et après, il y a toutes les mutuelles qui prennent le relais pour qu'il y ait un... que la consultation soit remboursée pratiquement entièrement. Il reste 1 euro à la charge du patient quand même. Et il y a certaines personnes, en fonction des revenus qu'ils ont, ils ont ce qu'on appelle la couverture mutuelle universelle. Donc oui, la prise en charge par la sécurité sociale est complète. C'est-à-dire que sur les 23 euros, ils remboursent 23 euros. Et ces personnes-là ne sont pas obligées de prendre des mutuelles.
Merci.
Hola, me llamo Sowad. Tengo una pasión. Le he comenzado el año pasado, cuando llegué a Francia, porque no conocía a nadie. Cuando dibujo y pinto, eso me relaja muchísimo. También cuando estoy enfadada o triste, me pongo a dibujar y a pintar. Me permite sacar la tristeza. Me gusta usar casi todos los colores en mis cuadros, pero no me gusta vestirme de colores, esto está claro. Para mí, cada color significa algo en mis cuadros. El negro para mí es el símbolo de la tristeza. El rojo y el naranja, la felicidad. El azul lo utilizo muchísimo, simboliza mi esperanza. Por el momento, he pintado dos cuadros, uno de un paisaje muy grande con muchos colores y el otro de un mar. No quiero enseñar mis cuadros a la gente ni tampoco a mi familia porque tengo miedo de que entiendan cosas personales.
Studio 411.
pôle de création artistique.
C'est là.
Ah ouais, galerie d'art.
Photo, vidéo, location, studio.
On y va.
Moi, je m'appelle Florine et je m'occupe du studio 411. Donc, on est une association multiculturelle ici avec une partie galerie d'art et d'autres parties un peu créatives. Voilà, donc on a ouvert l'association en octobre 2013 et depuis je m'occupe de la galerie et de ramener des nouveaux artistes à Montpellier.
Est-ce que vous voulez passer à l'espace street art? Allez. Poupa, t'es prêt?
Ben voilà, donc enchanté à tous, moi c'est Poupa Lost. Donc ben là vous avez deux tableaux à moi qui sont relativement différents de ce que je peux faire dans la rue. En fait, mon concept, c'était d'abord de partir d'une notion, d'une phrase.
Sky is not a limit.
Et après, de l'habiller, donc...
En fait, le ciel, c'est vers le côté du cadre. Et il a fait sortir le dessin.
Parce que justement, je trouvais que ça allait bien avec le thème de la toile, qui dit donc que le ciel n'est pas une limite. Donc voilà, l'idée, c'était de faire sortir le tableau de la toile.
Je préfère celui d'en haut. Ouais, parce que les roses, et moi, j'aime bien les roses.
We don't give a fuck, yo.
Désolé, hein. C'est moins vulgaire en français, ça veut dire on s'en fout quoi. Juste la phrase, entre guillemets, elle est un petit peu virulente. Si on regarde aussi les personnages d'un peu plus près, il y en a qui sont pas forcément très avenants. Donc il y a des trucs un petit peu vulgaires, il y en a un qui fait un bras d'honneur, ce genre de truc. Et je trouvais ça intéressant justement de mettre en opposition avec des couleurs plus douces et plus abordables. Même on voit aussi sur le fond qu'il y a un espèce de grillage qui commence... Enfin, qui n'est pas présent sur les côtés, donc c'était pour donner l'idée que même quand il y a un grillage, on peut quand même toujours se débrouiller pour passer à travers. Voilà, ne pas trop, on revient sur l'idée de ne pas trop accorder d'importance à l'avis de la meute et de la masse, et de se faire son propre avis soi-même, aller chercher les informations par soi-même. Voilà, c'était ça l'idée générale.
Qu'est-ce que le street art pour vous?
C'est donc de l'art qui est censé se trouver dans la rue, à la base. Enfin, c'est pour ça, street, rue, art.
Est-ce que c'est légal?
Vu que tu peins sur un mur qui t'appartient pas, soit il appartient à quelqu'un d'autre, soit il appartient à la mairie ou au bâtiment de France ou peu importe, donc ça reste quelque chose d'illégal. Après, les seuls trucs légaux qui existent, c'est par exemple si t'as un restaurant ou un bar qui te demande de faire le store ou de faire la façade comme ils avaient fait ici devant.
Par exemple, prenez le cas de Banksy, c'est un artiste qui est quand même très connu, qui est coté, qui vaut de l'argent donc, sur le marché de l'art. Et pour vous donner un exemple tout bête, mais montrer vraiment que c'est spécifique aux communes, il a fait plein d'installations et tout. En général, quand il fait quelque chose, les gens, ils le plastifient, ils l'encadrent, ils le gardent, on essaye vraiment de le conserver. Et la même année, il y a la ville de Bristol, par exemple, qui a fait tout enlever. Donc, ils ont tout recouvert, repeint, nettoyer ses murs. Et à l'inverse, à Londres, eh ben, il y a des personnes qui ont carrément découpé des murs de maisons pour aller le vendre ensuite à New York. Donc ça dépend tellement des communes. Il y a des grosses anomalies comme ça encore dans l'art urbain aujourd'hui, quoi. Ça dépend vraiment des communes, de la volonté des élus, etc.
Merci.
Vraiment pas hésiter.
Je rêve de devenir footballeuse. J'ai toujours joué au foot avec mes cousins au quartier. Un jour, je les ai accompagnés à leur entraînement. Ça m'a direct plu. C'était un mercredi et le vendredi, je me suis inscrite. Ça s'est passé il y a un an. Depuis, je m'entraîne trois fois par semaine avec les filles de mon âge qui sont en même temps mes amies du quartier. Cuando estoy en el campo, olvido todo. Solo pienso en ganar y defender mi equipo. Más gano y más tengo ganas de jugar. Soy delantera. Es el puesto que siempre he soñado tener. Soy la más pequeña de mi familia y si juego el fútbol es también para defender la causa femenina. Somos chicas, podemos y sabemos jugar también. J'aime pas quand les garçons disent que les filles savent pas jouer et j'aime pas quand les filles font les fragiles et leur donnent raison. No me gusta cuando hay diferencias entre hombre y mujer. Tous les jours, j'essaie de défendre le respect envers les filles. Je passe du temps avec des filles et des garçons et je fais pas de différence.
Alors bonjour, je m'appelle Sofiane, j'habite Montpellier et j'ai jamais entendu parler du swing, qu'est-ce que c'est?
Alors salut Sofiane, moi c'est Isaïe, donc je suis venu avec Tatiana et Mélodie, on fait partie de l'association Swing Jammers. Et aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Quand on parle de swing, on parle surtout de la musique. Et nous, il y a différentes danses qui peuvent correspondre à cette musique-là. Et nous, on fait du lindy hop, ce qu'on vous montrera tout à l'heure. Mais dans la même famille de danse, il y a les claquettes, par exemple. Tu as déjà vu des claquettes dans des films. C'est sur la même musique. Nous, on le fait différemment et ça s'appelle du lindy hop.
Est-ce que vous vous êtes déjà blessé en dansant le swing ?
Si tu danses quelques heures d'affilée, tu peux être vraiment fatigué, avoir des courbatures le lendemain. Après, il faut savoir que dans le lindy hop, précisément, il y a aussi des acrobaties. Donc il y a un danseur un peu mythique dans notre danse qui s'appelle Frankie Manning. S'il y a un nom à retenir aujourd'hui pour le lindy hop, c'est Frankie Manning. Et c'est lui qui a initié la première fois une acrobatie avec une de ses partenaires. Et dans ces cas-là, c'est un peu dangereux. Il faut faire attention à la réception et pas se blesser. Donc voilà.
Comment le swing se développe sur Montpellier ?
Il faut savoir que Montpellier, c'est un spot assez réputé pour le swing, pour cette danse-là aussi. Parce qu'il y a beaucoup de musiciens, donc on a souvent l'occasion d'aller danser en soirée sur la musique live avec des musiciens qui jouent pour nous et nous on danse. Donc c'est ça la force de la scène montpelliéraine pour le swing.
C'est beau.
Il y a des jeux d'équilibre.
C'est très dynamique. On dirait qu'elle saute.
C'est très rythmique.
Ça a l'air facile.
Oui, ce n'est pas si facile que ça quand on ne connaît pas et quand on doit apprendre.
C'est une richesse de cette danse, c'est qu'on ne se prend jamais trop au sérieux. On s'amuse avec la musique, et donc c'est très expressif. Il ne faut pas hésiter à rigoler, s'amuser dans cette danse. Au contraire, c'est fait pour ça, c'est très joyeux, quoi.
C'est beau à voir.
Nous voilà arrivés à destination finale.
Nous espérons que le voyage vous a plu.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce projet.
Merci à Capucine de l'association Wakadji.
Merci à Madame Latriche, notre professeure d'espagnol.
Merci à Monsieur Lenné, le principal du collège Las Cas.
Merci à Madame Alali, la principale adjointe.
Merci à Baptiste et Jérémy pour leur soutien.
Et à toutes les personnes du collège qui nous ont permis de faire ce projet.
Merci au Dr Hall.
Merci à la compagnie Swing Jammers.
Merci au studio 411.
Merci à Corinne Turland de l'Office du tourisme de Montpellier.
À la réalisation de cette émission, il y avait
Samira,
Ibtissem,
Imen,
Sofiane,
Anissa,
Shaima,
Souad,
Mohamed,
Nisrine,
Sabri,
Fatima Zahra,
Younes,
Mohamed,
Ibtissem,
Halima,
Nordine,
Youssef,
Oussama.
Chers auditeurs, chers correspondants cubains, nous espérons que le voyage vous a plu.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Slema.
Adios.
Au revoir.
Adios.
Quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Si je dis...